Voilà. Bien, et donc je suis très heureux de tous vous voir. Il y a beaucoup de visages connus. Alors je fais le petit sondage express comme d'habitude. Quelles sont les personnes qui sont dans la salle, qui ne sont pas adhérentes à l'UTB et qui sont venues pour m'écouter? Bon, c'est bien, merci. Deuxièmement, quels sont ceux qui ont su l'existence de cette manifestation par l'affiche? Personne. Donc, c'est la première fois qu'on avait fait une campagne d'affichage, c'était pour faire un essai, si vous voulez. Donc, l'essai est concluant, ça n'a aucun impact. Voilà. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Voilà. Donc, vous l'avez su par vos amis, vos collègues, etc., etc. Bien. Donc, je vous remercie. Donc la séance, je vais essayer de tenir dans l'heure et demie qui est la durée standard. Vous savez que j'ai tendance toujours à déborder parce que emporté par ma passion. Hein. Et donc, l'essentiel de la présentation consistera dans l'énoncé du programme que j'essaierai de commenter au mieux et de vous expliquer le mécanisme qu'on a suivi pour élaborer ce programme. Et ensuite, un petit zoom sur le site internet et un petit zoom sur les ateliers. Sachant que pour ce qu'on appelle les ateliers, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas conférence, les ateliers de langue, etc., etc. On a une présentation spécifique au mois de septembre, donc au moment de la vraie rentrée, disons qui est consacrée essentiellement à cette partie de notre programmation. Voilà. Ah, nous avons la chance extraordinaire de faire ça en même temps que la manifestation de la fonction publique, mais nous avons l'habitude là d'avoir une sonorisation de fond, disons à l'occasion de ces manifestations, donc on n'est pas plus perturbé que cela. Voilà, donc on y va. Voilà. Bien, nous avons. Je vais un peu m'adresser aussi à ceux qui ne connaissent pas l'UTB. Donc, nous avons un statut associatif, c'est-à-dire on a une quasi-totalité liberté de programmation de nos conférences. Ça, c'est très important, ce qui n'est pas le cas dans toutes les universités ouvertes. Donc, nos adhérents, c'est une source d'inspiration pour faire le programme de l'année suivante. Ce n'est pas seulement un comité Théodule qui réfléchit tout seul pour proposer des conférences. Et l'objectif, c'est effectivement qu'on ait le maximum d'adhérents, puisque nos seules ressources, ce sont les cotisations de nos adhérents. Nous n'avons pas de ressources monétaires données, ou un tout petit peu, si vous voulez, mais très peu. L'essentiel du soutien des pouvoirs publics locaux, c'est-à-dire la ville et le Grand Chalon, c'est de nous donner la gratuité des salles et de nos locaux administratifs. Alors cette année, c'est une grande nouveauté, on a fait la plaquette avec en quadrichromie, tout en couleur. Voilà, et vous voyez la page de garde. Je rappelle pour ceux les habitués de cette formule, on avait d'habitude une plaquette en monochrome. Alors, pour les conférences, nous essayons depuis plusieurs années de faire des thèmes transversaux. Ça veut dire la chose suivante, c'est que sur une même thématique, on aura au moins 2 ou 3 ou 4 ou 5 conférences qui vont être faites par des conférenciers différents et qui vont aborder un point de vue sur cette thématique. Alors, je rappelle que le socle de la programmation de l'UTB, c'est toujours et ce sera toujours l'histoire de l'art, qui représente un bon quart des conférences. Et donc, les thèmes dans l'histoire de l'art, ce sera l'art contemporain, c'est-à-dire, on va dire, première moitié du XXe siècle. Science et art, on a beaucoup de conférences, enfin beaucoup, 3 ou 4 conférences qui font le pont entre soit des scientifiques qui s'intéressent à l'art, soit des artistes qui s'intéressent à la science. On y reviendra dans le détail. L'école de Paris, c'est Montparnasse, donc c'est une école de peinture. Et on a choisi, pour sortir un petit peu de l'hexagone, les peintres russes et anglais du 19e siècle. Enfin, des peintres russes, voilà. En histoire, donc, on était arrivé à la période contemporaine. Ben, pour ne pas faire du journalisme, on a fait un petit retour en arrière. Et donc, on va aborder un thème qu'on n'a jamais abordé depuis plus de 10 ans. C'est la Renaissance. À la Renaissance, non seulement la Renaissance italienne, mais la Renaissance, on va dire, européenne, bien sûr, initiée par l'Italie. La guerre 14-18, évidemment, nous sommes en 2018, c'est un sujet incontournable. Depuis qu'on a cet événement dans le paysage, on va dire, médiatique, nous avons pris le parti systématique de ne pas faire de revue historiographique spécifique à la guerre 14-18. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes gavés, vous allez être gavés de ces sujets à la télé, dans les magazines et tout, ça n'apporte rien de refaire la même chose à l'UTB. Donc nous essayons de trouver quelques thèmes un petit peu originaux qui sont en connexion avec la guerre 14-18. Au niveau histoire contemporaine, on traitera de la France entre les deux guerres, période ô combien méconnue. Si vous voulez, les guerres effacent complètement tout ce qui se passe autour, et on ne comprend les guerres que si on comprend ce qui se passe entre les guerres. En philosophie, notre équipe de philosophes va se concentrer beaucoup sur Jean-Jacques Rousseau. Et on a toujours aussi un petit peu l'habitude de parler de pays un petit peu lointains et un petit peu méconnus. Et donc on a choisi 4 pays, l'Irlande, l'Arménie, le Liban, la Libye, 5 pays, et les pays baltes, qui sont un petit peu en dehors des radars. Et donc on aura des conférences un petit peu d'histoire et de géopolitique sur ces différents pays. Un autre sujet qui était un petit peu incontournable, c'était bien sûr la place des femmes, puisque aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne parle pas du sujet dans les médias. Donc nous avons essayé de trouver des conférences qui soient, une fois de plus, complémentaires à tout ce qu'on peut raconter dans les médias. Vous verrez dans le détail. Sur la technique, on va aborder un sujet qui, à ma connaissance, n'a jamais été abordé à l'UTB, c'est tout ce qui tourne autour de l'aéronautique. Et donc on fera de l'histoire et un petit peu de technique autour de l'aéronautique. J'en parlerai dans le détail. Et ensuite, d'une façon générale, les défis des changements de la société. Là, c'est des sujets très variés, mais que j'aborderai conférence par conférence. Alors, histoire de l'art. Donc, NXP nous a proposé un sujet qu'elle n'a jamais traité de mémoire, c'est la photographie en tant qu'objet d'art. C'est-à-dire, NXP, c'est notre référence en histoire de l'art. Elle nous fait beaucoup de peinture ou d'architecture. Donc là, on va écouter une nouvelle thématique. Donc je rappelle qu'NXP, elle intervient à Lyon 2, elle fait la formation pour l'agrégation de l'histoire de l'art. Donc Claudie Roget, qui a fini son cycle sur impressionnisme, le post-impressionnisme, donc on fait une petite avance de phase et on revient dans les années 20, donc on va parler de ce qu'on appelle d'une façon les peintres de Montparnasse ou l'école de Paris. Donc typiquement Modigliani, Manet, Fernand Léger, etc. 4 conférences. Alors, Damien Capellazzi, qui est une de nos autres vedettes de conférences d'histoire de l'art, après des négociations, j'allais presque dire trumpiennes, hein, puisque c'est à la mode, on a convergé vers le sujet suivant, c'est de prendre grand musée hyper connu. Alors effectivement, en une heure et demie, on ne peut pas raconter tout ce qui se passe dans ces musées. Donc, ce sera plus ciblé, en particulier sur le 19e pour le musée de l'Ermitage. Et évidemment, pour les offices, on choisira les peintres italiens de la Renaissance, puisque c'est la thématique de la Renaissance. Donc, c'est Mathieu Pinette qui va se coller les peintres anglais et les peintres russes. Alors, il y en a tellement qu'on ne sait pas par où commencer. Et évidemment, d'ailleurs, on n'a pas mis de nom très particulier pour les peintres russes, parce qu'il y aura deux séances du 19e. Hein. Et les peintres anglais, après discussion avec lui, donc j'ai suggéré deux têtes de file, si vous voulez, c'est Whistler et James Tissot, dont on voit quelques images. Symbolique. Alors, l'année dernière, et cette année ça va continuer, le professeur Patrice Debray nous a fait deux conférences sur l'immunologie, enfin sur les microbes, on va dire plutôt le microbiote, et sur l'histoire des épidémies. Et comme le courant est bien passé, on a eu la chance Monsieur Patrice Debray, son papa, il s'appelle Olivier Debray. C'est le cousin des Debray que tout le monde connaît. Et Olivier Debray, il a mal tourné, il est devenu peintre. Donc il a fait ce qu'on appelle l'abstraction lyrique. Et donc on a trouvé une conférencière qui a bien. Donc on n'a pas demandé à son fils d'en parler. Mais on a demandé à une spécialiste d'Olivier Debray de nous faire une conférence sur Olivier Debray. Vous allez voir que les Debray sont partout dans le programme de l'année prochaine. Voilà. Alors, notre séance d'inauguration, M. Curnier Laroche, je rappelle, qui est prêtre à Sensei, je vais y arriver, et qui est spécialiste, il faut que je crée plus fort, parce que là, la sono va nous couvrir, va nous faire la figure de la femme dans la spiritualité chrétienne. Voilà. Et dans l'art contemporain, donc, Roger Courreau, on va fermer un petit peu les vitres, là, mais ça va limiter les perturbations. Donc Roger Courreau qui traite en général de l'art abstrait va nous faire Gerhard Richter et il va nous introduire au cubisme avec bien sûr Braque et Picasso. Mais Picasso, vous le savez, il a tout fait. Et donc je pense que l'année suivante, on aura un développement plus large sur le cubisme, si vous voulez. Alors, voilà, premier thème autour de la guerre 14-18, il y a un de nos conférenciers d'histoire de l'art qui nous a proposé un reportage photo qu'il a fait lui-même sur les lieux de combat de la guerre 14-18. Donc c'est une occasion de faire quand même un petit peu d'événementiel et de dire un petit peu tout ce qui s'est passé, mais de le faire à travers des images. Je rappelle une chose qui a été dite dans d'autres conférences. Toutes les photos de guerre que vous voyez de guerre 14-18 sont des photos qui ont été posées. Il n'y a jamais eu de photos instantanées prises pendant les batailles, puisque le matériel de photo pesait entre 40 et 50 kilos. Et quand ça mitraillait de tous les côtés, donc tous les films et toutes les photos de la guerre 14-18 sont des photos posées, bien évidemment. Des photos d'action, si vous voulez. Alors, tout à fait en symétrie, M. Vion-Delphin, qui est notre conférencier d'histoire, qui vient de Montbéliard, qui était un professeur d'histoire moderne à la faculté de Besançon, nous a proposé ce sujet-là, qui est de dire l'art pendant la guerre 14-18. Qu'est-ce qui s'est passé aussi bien du côté français que du côté allemand. Alors, du côté français, j'ai mis quelques exemples, c'est la carte postale patriotique, si vous voulez, mais il y a bien d'autres choses, il y a les affiches de propagande, également l'art classique, on va dire, pictural, qui sera évoqué. Et c'est intéressant de faire la symétrie entre le côté français et le côté allemand. Ensuite, l'architecture. Donc, notre architecte de service qui maintenant est habitué de nos salles, qui est architecte en activité, hein, c'est un homme qui a une quarantaine d'années, qui est très sympathique et qui explique très bien. Et il nous fait un cycle depuis plusieurs années sur ce qu'on appelle les maisons d'architectes, qui sont la naissance de, on va dire, l'architecture moderne dans l'habitat individuel. Alors, on invite bien sûr toujours Madame Annie Le Guerrer, qui remporte un succès massif, puisque c'est la spécialiste française de l'histoire du parfum. Et elle viendra, comme d'habitude, avec toutes ses petites fioles, elle nous fera passer les petits buvards, et donc les dames se régalent, les messieurs aussi. Hein. Et donc, je vous montre ce petite chose, l'eau de Cologne. Tout le monde sait ce que c'est que l'eau de Cologne, mais pas vraiment, en fait. L'eau de Cologne, c'est quelque chose qui a été inventé par M. Farina, et il habitait, Farina, c'est pas un Allemand, hein, c'est un Italien, et il a fait ça à Cologne, et donc son eau, on l'appelait eau de Cologne, tout simplement, parce qu'il a développé ça à Cologne. Et le premier flacon d'eau de Cologne, voilà le look d'un flacon d'eau de Cologne. Donc, quand le parfum pour terre humide, puisqu'elle nous a déjà expliqué dans des conférences précédentes que jusqu'à une période relativement récente, le parfum était perçu comme un médicament et non pas comme quelque chose, comme une senteur, si vous voulez. Je rappelle que Napoléon buvait 1 litre d'eau de Cologne par jour, qu'il avait dans ses bottes. Alors, l'alimentation dans l'art. J'ai mis un tableau un petit peu une nature morte, un peu vivante, hein, voilà. Et donc, le sous-thème, que nous disent les peintres du modèle alimentaire français? Vous savez que s'il y a quelque chose qui différencie beaucoup les pays, c'est effectivement la perception de l'alimentation par telle ou telle culture, si vous voulez. Les Allemands ne mangent pas ou ne perçoivent pas, ou les Anglo-Saxons, c'est encore pire, la nourriture de la même façon. Donc l'art est un miroir de cette vision des choses. Alors là, je n'ai pas pu résister, j'ai mis une petite blague, hein, la libération de la femme dans la toilette. Donc vous voyez la réduction sidérale de la taille des sous-vêtements féminins. Mais évidemment, ça ira bien au-delà de tout ça. Encore une fois, c'est l'aspect un petit peu culturel, c'est-à-dire l'image qu'on a de la femme et l'image que la femme veut renvoyer dans son environnement. Et donc, c'est M. Christophe Audoux qui n'a pas pu faire sa conférence qui était prévue cette année. Donc, il est professeur de mode au lycée Émile Angoté, là, juste à côté, hein, qui va nous faire ça. Alors, Françoise Rasselobleff, un membre éminent, mais qui n'est pas là cet après-midi, du comité des programmes, c'est d'ailleurs elle qui sert de secrétaire pour mettre tout ça en mesure, va nous parler d'Ambroise Vollard, un autre marchand d'art, puisque on a parlé de l'autre dont j'ai oublié le nom, là, et qui a lancé les impressionnistes. Donc voilà, Ambroise Vollard, c'est Matisse qui a peint Monsieur Ambroise Vollard. Alors, en histoire de l'art, il y a d'autres thématiques, si vous voulez, que je verrai tout à fait à la fin, comme le cinéma, le théâtre et les choses comme ça, mais ce sont des thématiques spécifiques. Alors, en histoire, un gros bloc. Je vous passe, vous lisez la répartition des thématiques. Et on va les passer en revue tous ensemble. Alors, histoire médiévale, argent et usure au Moyen Âge, entre défiance de l'Église et réalité économique. Donc c'est un nouveau conférencier que nous ne connaissons pas qui nous a proposé ce nouveau thème. Monsieur Clemenceau, un de nos conférenciers fidèles également, qui est guide conférencier en particulier sur tous les bateaux qui défilent sur la Saône, là, parce qu'il a la particularité non seulement de bien parler français, mais il parle très bien l'allemand, il parle très bien l'anglais. Et donc, vous savez que sur ces bateaux, il y a très peu de Français, il y a beaucoup d'étrangers. Et donc, en hiver, il nous propose toujours une conférence originale. Et il va nous parler de l'histoire de la chevalerie, puisque ce concept de chevalerie n'a existé qu'en Occident. Ça n'a pas existé ni en Asie, et a fortiori, ni en Amérique, puisque on a zappé le Moyen-Âge, bien sûr. Alors, voilà la Renaissance. Par quel morceau va-t-on prendre le... Eh bien, on commence par des figures emblématiques. Alors, là, je fais le quiz, comme d'habitude. Alors, qui est ce monsieur? Ah ben, vous ne voyez pas, le monsieur qui est en haut à gauche. Laurent le Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Florence la Seigneurie. Ah, en bas à gauche. En bas à droite. Bon, les nouveaux auront une réduction sur le ticket d'entrée. Voilà. C'est pas mal. Voilà. C'est pas très difficile, mais c'est pas mal. Alors, ensuite, les deux du dessus. Bon, c'est pas facile à retrouver. Hein. C'est Alexandre VI, Borgia. Et à droite, c'est Jules II. Hein. Et donc, Michel Bonnet va nous faire deux conférences sur les papes de la Renaissance. Il nous le propose depuis plusieurs années déjà, parce qu'il a fait une étude personnelle synthétique sur cette thématique, et donc il a tout ce qu'il faut pour répondre à la question. Alors, là, c'est la partie ecclésiastique, et donc en dessous, hein, donc à gauche, Charles Quint, bien, et à droite, Philippe II d'Espagne. Je n'ai pas entendu la réponse. J'ai fait exprès de ne pas mettre la légende. Donc voilà un premier bloc sur la Renaissance. On aura un deuxième bloc qui va venir un petit peu plus tard. En histoire contemporaine, donc, les pays un petit peu périphériques que j'ai évoqués. Et effectivement, on a eu l'occasion d'en parler, par exemple, dans les conférences sur la reine Victoria, sur la période victorienne. C'est, bien que ce ne se passe pas à ce moment-là, mais enfin, disons, les soubassements du problème irlandais étaient déjà présents. Donc c'est la guerre d'indépendance de l'Irlande qui a conduit à une guerre civile qui a duré quand même 5 ans, 1917-1922. Et en 1922, ce qu'on appelle l'AIR, donc c'est-à-dire l'Irlande moins l'Irlande du Nord, a pris son indépendance, est une république. Et vous savez que cette situation dure toujours aujourd'hui. Et avec le Brexit, ça remet le couvert sur la table, avec une difficulté majeure au niveau de la gestion de cette situation. Les pays baltes. Alors, les pays baltes, c'est à la mode pour faire des beaux voyages. Mais également, c'est à la mode, mais personne ne les connaît au sens géopolitique du terme. D'où vient qu'est-ce que sont les pays baltes? Ben, c'est très particulier. Les pays baltes sont des pays baltes et ils ne sont ni polonais, ni russes, ni, ils sont baltes. Tout simplement, c'est la Ligue hanséatique et surtout des peuples d'une origine ethnique qui est différente de ce qui est l'origine continentale, c'est plutôt des Suédois, on va dire, ou des Finlandais, parce que les Suédois et les Finlandais, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc Robert Kasprzyk, qui est quand même, je rappelle, d'origine polonaise, connaît bien ce sujet et nous propose ce cycle de deux conférences. Alors, l'entre-deux-guerres. Alors là, c'est facile. Donc là, c'est l'interro oral. Ce monsieur, la petite barbichette en haut à gauche, Poincaré, Raymond. Donc, président de la République pendant la guerre 14-18. Ensuite, la moustache, big moustache. Aristide Briand. Comment ? Oui, Édouard Herriot, ah ben vous répondez avant la question, c'est bien. Et celui-là, bien sûr, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, celui-là, le quatrième. Voilà, d'accord. Alors, on va aborder un sujet qui est très sensible au niveau historique, c'est l'attitude des intellectuels pendant la guerre avant et pendant la guerre de 39-45. Et comme dans tous les grands événements historiques, et bien évidemment tout ça, ça se sépare en deux. Et il y a les pour et les contre, et après il y a quelques règlements de compte à la sortie, comme vous le savez. Donc, alors celui-là, il n'est pas facile à reconnaître, mais celui-là, est-ce que vous le reconnaissez ? Celui qui est à droite, en haut à droite, est Pierre Joliot. Donc, je rappelle que Pierre Joliot a été patron du CEA, c'est lui qui a fondé le CEA sous l'impulsion de De Gaulle en 1945. Mais Pierre Joliot faisait partie du comité central du Parti communiste. Et il a été démis de ses fonctions en 1950 sous la pression de la guerre froide et de l'environnement politique du moment. Et donc, notre historien dessous, ce monsieur que vous n'avez jamais vu, s'appelle Justin Godart, qui était un parlementaire lyonnais, qui a eu une vie de résistant tout à fait singulière, et donc Robert Chantin va nous évoquer. Ah, alors, Monsieur François Kersaudy, maintenant ça y est, c'est fait, il est fidélisé à l'UTB, donc vous savez qu'il nous a fait une conférence extraordinaire cette année-là sur De Gaulle et Churchill, mais enfin c'est son sujet de prédilection. Et parmi les études qu'il a faites, on va parler de Lord Mountbatten. Alors Lord Mountbatten, c'est, on va dire, c'est l'oncle c'est le grand-oncle, puisque c'est c'est l'oncle du prince Philippe. Le nom de famille du prince Philippe, il s'appelle également Mountbatten. Mountbatten, ils sont d'origine allemande et leur nom d'origine, c'est Battenberg. Von Battenberg, et si vous anglicisez Battenberg, Batten, ça veut dire la bataille, Berg, c'est la montagne, et bien vous, en anglais, ça fait Mountbatten, la bataille de la montagne. Hein, voilà. Et il avait changé son nom tout simplement parce que la germanophobie s'était développée fortement. Je rappelle qu'il était quand même généralissime juste avant la guerre, mais il a été écarté du fait de ses origines allemandes. Voilà. Donc François Kersaudy va vous expliquer tout ça. Et vous savez qu'il a été assassiné par l'IRA en 1972 par une bombe qui était posée dans son bateau. Et voilà, ça a été une des victimes de la guerre civile irlandaise, enfin la deuxième guerre civile. Alors, évidemment, on ne peut pas, Poutine, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc voilà, de Brejnev à Poutine et la grande mue de l'oligarchie soviétique. Donc vous voyez bien le sujet. Donc surtout, ce monsieur là vient de la Sorbonne, hein. C'est un érudit sur le sujet, il parle bien sûr le russe, et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a une sensibilité, une culture russe, même s'il est français, si vous voulez, pour comprendre les arcanes, on va dire, sociologiques de ces évolutions. Alors évidemment, en 2018, on ne peut pas échapper à 1968. Hein. Donc Monique Roux nous a proposé de faire un anniversaire de 1968, mais pas seulement centré sur la France, hein, les événements de mai 68. Vous savez qu'en 68, il s'est passé des tas de choses dans le monde entier. D'aucuns espèrent qu'il va se passer de grandes choses en 2018. Peut-être que ça va être le cas. On verra bien. Enfin, il faut se dépêcher parce que le mois de mai, il n'est pas loin du bout. Hein. Et donc, on voit par exemple ici, bien sûr, vous connaissez Daniel Cohn-Bendit. Hein, cette photo est célèbre. Mais en haut, là, c'est les émeutes qu'il y avait à l'Université de Mexico. Et là, les Jeux Olympiques. C'est à Munich, hein, c'est bien ça. Je ne me souviens plus. Où il y avait le point levé des Noirs. Voilà. Alors, histoire industrielle. C'est toujours intéressant d'écouter ces choses-là qui sont complètement, totalement méconnues. La découverte de la soie artificielle. On va dire la rayonne. On a du mal à imaginer aujourd'hui, parce que les tissus synthétiques ont mauvaise presse. Enfin bon. Mais au moment où c'est sorti, tout de suite après la guerre, ça paraissait tout à fait extraordinaire. Donc M. Luneau, qui est un chimiste et qui est assez rigolo, qui est très pédagogue, nous parlera de tout ça. Et en deuxième conférence, il va nous parler de l'alchimie. L'alchimie, la mère de la chimie. Hein. Évidemment, j'ai trouvé une illustration extraordinaire pour illustrer la chose. Je l'ai même mis sur la page de garde de la plaquette parce que je trouve ce tableau extraordinaire. Donc, tout le socle des connaissances en chimie vient de l'alchimie. Bon, il va vous expliquer tout ça. À nouveau, Joliot, mais là, on va parler de la facette scientifique. Et puisque ces deux dernières années, on a parlé beaucoup de la fission, de la bombe atomique, des travaux des Curie, enfin, mère et fille. Et donc, Jean-Pierre Pervès est venu cette année, c'est l'ancien directeur du centre de Saclay. Il nous a fait une conférence sur Fukushima. Et donc, je lui ai demandé, il a accepté, de nous parler des débuts du CEA. Une chose qui est peu connue, le CEA, c'est le premier pays au monde après les États-Unis. Les États-Unis l'ont fait 18 mois après la France, le premier pays au monde qui a eu quelque chose qui s'appelait le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, en novembre 1945. Aux États-Unis, qui ont quand même fait la bombe, ils ont inventé l'équivalent du CEA le 1er janvier 1947. Donc, la France a été pionnière dans l'organisation civile du développement de l'énergie nucléaire. Alors, notre ami Ahmed Djebar nous a proposé une conférence sur l'histoire de la médecine. Et évidemment, on a beaucoup d'iconographie arabe, puisque la médecine a beaucoup de sources arabes, et donc j'ai trouvé quelques images pour illustrer cette thématique. Alors je rappelle que M. Ahmed Djebar, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils sont nouveaux, c'est un ancien ministre de l'Éducation nationale d'Algérie, de 92 à 94. Sa spécialité académique, c'est les mathématiques. C'est le spécialiste des mathématiques andalouses, puisque vous savez que les Andalous, les Arabes andalous, ont fait le pont entre les écrits des Grecs et les développements d'Europe occidentale à partir de la Renaissance. Il nous a fait plusieurs conférences sur ce sujet, mais il a beaucoup de sujets dans son sac, et donc il nous a proposé ce sujet-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a un autre conférencier qui va nous parler également de l'histoire de la médecine. Et évidemment, voilà un Debré qui revient. Donc Robert Debré, qui est venu deux fois l'an dernier, a accepté de revenir une troisième fois nous parler de son grand-père. De son grand-père, Robert Debré, qui a inventé la pédiatrie à Paris. Voilà. Avec la barbe, on a du mal à reconnaître l'air de famille, mais bon. Alors, je change de sujet, là. Donc, toujours en histoire des techniques. Donc, un de nos adhérents qui est très actif, Monsieur Jacques Folléas, qui est très actif à l'aéroclub de Champforgeuil, là, nous a déjà fait une conférence un peu de ce type-là, et il va nous parler de l'évolution aéronautique pendant les deux conflits, 14-18 et 39-45. Alors, voilà un autre sujet qui parle aussi d'aéronautique. Alors, j'adore le titre, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est le conférencier. Luxe et volupté dans les airs. C'est pas mal, ça. Et ça, on a du mal, on a oublié tout ça, si vous voulez. L'aviation commerciale, disons, de luxe, entre guillemets, ça n'a duré que, une petite vingtaine d'années, pas plus. C'est-à-dire de 1918 à 1938. Et là, voyez, voilà comment on était dans les... Et j'inclus bien sûr les dirigeables. Et là, c'était le luxe et volupté dans les airs. Voilà, je ne veux pas dire autrement. Donc, on va découvrir ça. Et l'aviation commerciale de masse, ça a démarré, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un autre sujet. Alors, comme j'avais fait une conférence cette année là, sur la bombe A américaine, il m'est venu une idée, j'ai des tas d'idées, voilà, et j'ai demandé à un monsieur qui s'appelle Christian Buchalet, qui est un ancien collègue de travail, qui est le fils de son père, comme tout le monde, et son père, c'est la photo de son père, là, c'est le général Buchalet. Vous n'avez jamais entendu parler de ce général, mais vous en entendrez parler si vous écoutez la conférence. C'est celui qui a fait exploser la bombe atomique française à Reagan en 1960. Enfin, c'était le chef de projet, si vous voulez. Donc, et quand je lui ai demandé de faire cette conférence, ah ben oui, je veux bien venir. Et il m'a dit, ça me permettra d'ouvrir les caisses des archives de mon père qui sont dans mon garage, que je n'ai jamais ouvert depuis qu'il est décédé. Et il va travailler sur les archives personnelles, et qui ne sont pas au ministère des Armées ou dans des bunkers, sur les archives personnelles de son père pour, pas seulement là-dessus bien sûr, pour nous faire cet exposé. Alors, je rappelle que les Américains ont tout fait pour qu'on n'ait pas de bombe atomique. Mais les Français, du fait d'un contexte très particulier, avec Joliot-Curie et tout, et de la 4e République, mais il va vous expliquer tout ça, a fait que... Parce qu'on dit toujours c'est le général de Gaulle qui a fait la bombe. C'est complètement faux. C'est tous les gouvernements de la 4e République qui ont fait continuer à... qui ont financé les recherches associées. De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé l'existence de la bombe comme une arme politique. Mais elle existait, il savait très bien qu'elle existait, puisqu'il était informé, même quand il n'était pas au pouvoir, de tous les avancements. Il n'a pas découvert en arrivant au pouvoir en 1958. Alors, on continue le cycle sur l'histoire de l'hôpital de Châlons, et là on saute la guerre 39-45, tout simplement parce que toutes les archives de la guerre 39-45 ont été détruites par une inondation pendant la guerre, et donc il n'y a plus de sources pour savoir ce qui s'est passé pendant la guerre, hormis les souvenirs des gens qui ont donné des mémoires. Donc, on aura une conférence là-dessus. Alors, archéologie. Donc, Monsieur Guichard, qui vient habituellement à la fin de la saison, c'est-à-dire fin avril, là, il était complètement surbooké et il a dit « je peux pas ». Alors, ça m'embête bien parce qu'il s'était engagé. Alors, on a trouvé un arrangement et il a dit, ben, je vous fais la conférence que j'avais prévu de faire au mois d'avril, je vais vous la faire début au mois d'octobre, donc au début de la saison. Et ça va tomber très bien puisque j'ai à Bibrac, sur le site de Bibrac, une exposition qui va démarrer en ce moment là, et je vous la ferai visiter après la conférence. D'ailleurs, on fera une sortie à Bibrac, comme on l'avait déjà fait il y a quelques années. Alors, Madame Ménétrier, qui vient de Beaune, va nous parler des accords entre les mets et les vins de Brillat-Savarin, le cuisinier célèbre du XIXe siècle. Alors, je reviens, c'est un peu décousu, si vous voulez, tout simplement parce que ces conférences ne sont pas mises sous le même chapeau. Par exemple, le Liban, c'est pas un pays en tant que tel, on va le mettre histoire des civilisations, parce que là, le spectre temporel qui va être balayé, évidemment, ça ira de l'Antiquité à aujourd'hui. Donc il faut comprendre quelle est l'histoire compliquée de ce Liban, qui fait que ben, c'est toujours compliqué. Voilà. De la même façon, l'Arménie, qui est un peu le pendant, on va dire, chrétien du Liban, d'une certaine façon, cette enclave chrétienne qui est en plein milieu du Caucase, qui est cernée, entre guillemets, par des États musulmans, et qui, avec des tas de turpitudes autour des temps, a survécu tant bien que mal, grâce entre autres à une diaspora très largement répandue, et vous en connaissez un célébrissime, on en parle aujourd'hui à la télé, c'est M. Charles Aznavour, qui vient de fêter son 94e anniversaire. Il n'a pas voulu venir faire la conférence, mais bon, il est cher un petit peu. Voilà. Bon. Histoire des religions. Alors, c'est une thématique qu'on a toujours. On a essayé de trouver quelque chose d'original et on a trouvé quelqu'un qui va nous parler des fêtes religieuses juives. Parce que c'est en particulier mon cas, mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, on connaît très mal ou pas du tout les fêtes religieuses juives. Je rappelle quand même que la religion juive, elle est quand même un peu à l'origine et de la religion chrétienne et de la religion musulmane. Et donc il y a des réminiscences et c'est intéressant de savoir au niveau du chapeau. En particulier, je prends qu'un exemple, c'est les interdits alimentaires. Ce n'est pas les musulmans qui ont inventé les interdits alimentaires. Ce sont les Israélites. Alors, géographie, là c'est une séance de rattrapage. C'est une conférence que M. Lyonnais n'avait pas eu le temps de faire dans ce cycle-là, donc c'est de parler de la région de Londres et du sud de l'Angleterre qui méritait une conférence spécifique. Alors, littérature, un autre grand morceau des thématiques que l'on traite. Et bien évidemment, puisqu'on a parlé des peintres russes du 19e et qu'on a parlé des peintres anglais du 19e, eh bien, on fait le symétrique au niveau littérature. Donc, on aura les différents... Là, les gens ne sont pas très faciles à reconnaître si vous les avez jamais vus en photo. Par exemple, le deuxième à gauche, là, au milieu, qui a une grande barbichette. Très bien, voilà. Celui qui est à côté. Conan Doyle. En bas, à gauche. Dostoïevski. En bas, à droite. Tolstoï, voilà. Je ne vous pose pas la question en haut, je ne me souviens plus de la réponse. En littérature, Madame Caetano va nous parler des femmes poètes au XVIe siècle, oui, en France. XIVe siècle, pardon. Évidemment, complètement méconnu, mais la poésie a été un des rares domaines où les femmes ont pu un petit peu émerger parmi la gent masculine, surtout à ces périodes-là. Donc, on peut dire que cette conférence, elle rentre dans la thématique « Place de la femme dans la société ». Et donc, un de nos adhérents, qui aime beaucoup la littérature, en particulier les polars, qui est présent dans la salle, va nous parler de Henning Mankell, qui est un écrivain prolifique et qui a beaucoup de succès, et qui est vivant actuellement. Et je pense que ce sera intéressant. Dernière conférence de littérature, c'est Paula Modersohn-Becker et Rainer Maria Rilke. Donc, c'était un couple, hein. Et c'est l'autoportrait de Paula Modersohn-Becker. Vous voyez, elle n'avait pas une idée très élevée de son physique. Voilà, c'est elle qui s'est peinte. Et Rilke, vous le voyez ici. Voilà. Alors, question de société. Donc, sous ce thème un peu fourre-tout, on essaye de trouver des thématiques qui posent problème dans la société actuelle. Alors vous allez me dire, le créationnisme, en général en Europe occidentale, ça ne pose pas trop de problème. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a toujours une école créationniste qui est extrêmement active et virulente. Et donc, j'ai utilisé la caricature qu'on a faite de Darwin pour dire l'homme descend du singe. Donc, effectivement, en plus, il avait un physique qui se prêtait facilement à la caricature. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est M. De Terre, c'est un prêtre, mais qui est dans la recherche biologique et qui réfléchit beaucoup sur les questions d'éthique et de philosophique qui sont derrière la recherche scientifique. Donc, je pense que ce sera intéressant. Question de société, incontournable, c'est le problème de l'hôpital. Le problème de l'hôpital, à part de pleurer en permanence en disant « il y a un problème », qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore ? Et donc, on a la chance maintenant, M. Bruno Legourd, qui était le directeur de l'hôpital de Châlons, a pris sa retraite au mois de janvier de cette année, et donc il a sa réserve de parole élevée, on va dire, d'une certaine façon, il a sûrement des idées très pertinentes sur le sujet. Mais surtout, de poser le problème, quel est le problème de l'hôpital, en dehors de ses moyens ? C'est-à-dire comment il faut que ça marche. Donc c'est un sujet qui est forcément très complexe. J'ai mis une courbe simplement pour dire que la montée en puissance de la demande d'hôpital qui pose un réel problème. Alors là, voilà un nouveau dans notre tableau de chasse. Et là, je suis très content qu'on ait réussi à le convaincre de le faire venir, Jean-Louis Bianco, qui est président de l'Observatoire de la laïcité. Je rappelle qu'il a été secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand de 1981 à 1993. Donc c'est un haut personnage de l'État qui accepte de venir à Châlons nous parler de laïcité. Donc ça a duré un an, mais ça marche. Voilà. Et dans la liste des vedettes, je sors la deuxième. Et Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, a accepté de venir à Châlons nous parler de son ouvrage « Le dictionnaire amoureux de la République ». Donc, en plus, il est marrant, lui. Donc, on va se régaler. Alors, en principe, là, les dates ne sont pas fixées parce qu'il faut faire coïncider la venue de Monsieur Robert Debré, de Monsieur Patrice Debré avec Monsieur Jean-Louis Debré, et donc c'est pas toujours très facile. Mais on devrait y arriver. Sujet de de société, mais qui est en même temps un sujet de psychologie, rythme et environnement de vie et leurs influences sur nos comportements. Donc ça, on pourrait dire d'une certaine façon, c'est un sujet tarte à la crème, mais M. Patrick Bonin, qui est déjà intervenu deux fois, là, qui enseigne à la fac de Dijon, c'est un chercheur sur le comportemental, c'est la psychologie expérimentale. Et donc il est très intéressant, très passionnant. Alors, notre sociologue, en fait, c'est M. Mauny, qui est l'ancien directeur de l'IUT, mais qui a une formation de sociologue. Et il m'a dit, je veux bien vous faire une conférence de sociologie, mais il y a tellement de choses à dire en sociologie, je ne sais pas quoi vous dire et tout et tout. Donc, sous la torture, et après une pression intense, il a fini par nous proposer ce sujet-là. J'ai sauté au plafond, et c'est vraiment un sujet passionnant. Et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ce tableau que je vous ai présenté dans une autre conférence il y a deux ans, ce tableau de Norman Rockwell, qui est emblématique. Alors évidemment, on le voit, il est petit là, mais on voit une dame avec son petit fichu et son petit caddie, son petit caniche, je ne vois pas bien ce qu'elle a, et qui regarde un tableau de Winterhalter, très classique et tout, qui est très bien, et une fille qui est en jean, moulant en pull et qui regarde un tableau cubiste et qui sont dans le même musée l'un à côté de l'autre. Donc qu'est-ce qui fait, quelle est la sociologie de l'art, qu'est-ce que c'est que la sociologie de l'art, quels sont les mécanismes culturels et psychologiques qui font que l'on aime tel type d'art ou que l'on n'aime pas ou que ça intéresse ou que ça n'intéresse pas. Alors, les femmes et l'éducation au XIXe siècle, quelle perspective professionnelle? Vous savez que les femmes ne sont entrées dans l'enseignement supérieur qu'à la toute fin du XIXe siècle. Un exemple iconique, on a eu une très bonne conférence là-dessus, c'est Marie Curie, bien sûr. Hein, mais je vous ai mis la plus belle, c'est Sofia Kovalevskaya, qui est une mathématicienne suédoise, qui est morte relativement jeune, c'est pour ça qu'on n'a que des photos jeunes, elle est morte à 40 ans, je crois, et qui a été, on va dire, supportée, au sens encouragée, par Mittag Leffler, qui était le membre du comité Nobel qui a permis à Marie Curie d'avoir son prix Nobel en 1903. Chez les Suédois, il y avait déjà des féministes. Alors, une autre conférence exotique, on aime bien mettre une conférence qui est inhabituelle dans notre programme, c'est M. Didier Pommet, peut-être certains d'entre vous le connaissent, il est connu dans la région chalonnaise, c'est un gars qui fait des marathons, il a visité 100 pays dans le monde, et c'est le trekker, le randonneur absolument impénitent, il a fait deux livres sur le sujet, et il va essayer de nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa tête qui fait que ça le motive à faire ce type d'activité, également avec son épouse. Donc, alors, moi je le connais depuis tout à fait récemment, c'est lui qui nous ouvre la porte au Clos Bourguignon, parce qu'il est à la vie associative et il s'occupe de la gestion des salles municipales. Mais en dehors de ça, il fait de la marche à pied et du marathon. Ensuite, la philosophie. Alors là, c'était facile. J'avais qu'à mettre Jean-Jacques Rousseau, puisqu'on a trois des conférences sur quatre qui concernent Jean-Jacques Rousseau. Donc, une. Alors, on a déjà eu des conférences sur Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire l'Émile et le contrat social, par d'autres conférenciers. Et là, on a pris des thématiques plus pointues, puisque Jean-Jacques Rousseau a écrit sur beaucoup de choses. Hein. Et on aura trois conférences. Et la quatrième, une conférencière qui vient donc de Dijon, qui va nous parler évidemment, homme-femme, quelle différence, mais vu du point de vue du philosophe, de la philosophe. Alors, en droit, notre conférencière de droit, qui est spécialiste de droit international, évidemment, lui a demandé de faire quelque chose sur les femmes, et donc on va faire une conférence sur le problème de l'acceptation ou du refus de l'IVG en Europe. Et actuellement, apparemment, il y a à nouveau des soubresauts en Irlande en particulier, sur ce sujet. Maintenant, un autre grand bloc, c'est économie et géopolitique. Alors, M. Véran, qui est un de nos conférenciers vedettes, qui a fait déjà beaucoup de conférences sur la Chine, a dit, mais ça va tellement vite que la dernière qu'il nous a faite, c'est il y a 3 ans. Et il a dit, ce que je vais vous dire à cette conférence, ça montrera ce qui s'est passé en 3 ans. Et il y a une évolution fantastique. Alors, il faudra venir l'écouter, bien sûr. Ce sera, en principe, début février. La Libye et les migrants, c'est-à-dire une façon de regarder le problème des migrants, c'est de regarder l'état de déliquescence dans lequel se trouve le Maghreb, et en particulier la Libye. Et un ami de M. Véran, qui est un prof d'histoire qui est à la retraite, vient du Luxembourg, qui va nous parler de le Tibet, la question tibétaine, mythe, propagande et réalité. Et donc sa thèse, il a fait plusieurs ouvrages là-dessus en disant le Dalai Lama, c'est il y a à boire et à manger, on va dire, on va faire simple. Et donc c'est intéressant de venir l'écouter. En fait, on va dire le Dalai Lama, c'est également une propagande. Les Chinois disent ben, le Tibet, c'est la Chine. Et le Dalai Lama, le Tibet, c'est le Tibet. Et c'est pas aussi net que ça, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors, bien sûr, un sujet incontournable, une nouvelle donne au Moyen-Orient. On a déjà eu beaucoup de conférences sur le Moyen-Orient par Bruno Benoît, plutôt sous la partie évolution historique. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire un petit peu une prospective. Même les meilleurs diplomates aujourd'hui ont du mal, manifestement. Et c'est un tel baril de poudre qu'on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Nos conférences sur la stratégie militaire. Donc, monsieur l'amiral Coldefy, là, viendra nous parler de l'importance de la marine française, puisque vous savez que la France est le pays qui a le plus grand domaine maritime au monde, tout simplement lié au fait qu'il y a beaucoup de dom-tom qui sont éclatés sur l'ensemble du globe. Et ensuite, il faut qu'on parle de ce machin dont tout le monde parle, mais personne ne sait ce que c'est, qui est, alors c'est pas le bitcoin, c'est le bitcoin. Hein, c'est la monnaie c'est les crypto-monnaies, il n'y en a pas qu'une, mais c'est celle qui est la plus célèbre. Et donc, un économiste qui vient de Besançon va essayer de nous expliquer comment tout ça fonctionne, et en particulier, c'est complètement déconnecté de l'économie réelle, mais ça essaye d'y rentrer. Hein. Donc, c'est pas facile à comprendre et à expliquer. Deux autres sujets moins médiatiques, mais tout aussi importants, la guerre des terres rares. Alors on vous parle souvent des terres rares, vous savez, c'est tous ces machins bizarres qui sont dans vos téléphones portables et dans l'électronique et dans vos téléviseurs. Et aujourd'hui, 98% de ces éléments-là sont exploités, raffinés par la Chine. Donc s'il y avait des problèmes majeurs géopolitiques, eh bien, ça, il y aurait des problèmes majeurs sur tous ces gadgets. Donc, c'est un sujet passionnant, mais très complexe. Et donc, M. Landry Léonard, qui est donc un des vice-présidents du Grand Chalon, mais qui est prof d'éco à Tournu, va nous parler de ça. Et d'une façon symétrique, on va essayer de vous parler de l'économie, de la distribution d'électricité. La distribution d'électricité, alors vous savez combien coûte le prix du kilowattheure, combien coûte le nucléaire par rapport à l'éolien, c'est la surface de l'iceberg. Les ressorts qui sont là-dessous, c'est d'une complexité affreuse. Et je suis en train de lire le bouquin dont j'ai mis la couverture, là, je connais quand même un peu le sujet, c'est extrêmement complexe. Et donc, M. Percebois, c'est un excellent pédagogue. Il n'a qu'un défaut, c'est qu'il est très demandé, puisque en France, c'est considéré, quand j'ai parlé de lui à M. Donnet, qui est le conférencier précédent, là, qui va nous parler des bitcoins, il a dit, ah oh, ben si Percebois vient, c'est le grand spécialiste, et il travaille à Montpellier. Donc, il m'a donné son accord de principe sous réserve de sa disponibilité. Alors, nous avons sollicité deux dames qui s'appellent Souria et Anna Aissaoui. Donc, vous devenez l'origine un petit peu certainement libanaise ou quelque chose comme ça, qui sont deux jumelles, qui sont des têtes bien faites, qui sont diplômées comme des sauveteurs et en génétique. Et donc, le conseil génétique en pathologie humaine, eh bien, c'est de dire, essayer de retrouver dans les analyses génétiques les prédispositions à telle ou telle maladie et des traitements qui vont avec. Donc, c'est ce qu'on appelle le conseil génétique en pathologie humaine. Et donc, elles feront une conférence à deux voix, évidemment, comme ce sont deux jumelles. On les découvrira, c'est des jeunes femmes. Hein. Et donc... Elles ont accepté de venir nous faire ça. Ça va être tout à fait dans l'ambiance du premier mois, vous savez, de la fête de la science. Sciences et techniques, l'astronomie. Alors, notre astronome de service, M. Michel Bonin, nous a proposé art et astronomie. À nouveau, on voit le pont entre la science et l'art. Et comme sujet plus technique, les météorites, et surtout, je lui ai demandé, ça c'était pas prévu au départ, c'était de nous expliquer comment marche le GPS. On ne peut plus vivre sans le GPS. Eh bien, c'est abominablement compliqué, pour faire court. Donc, il va essayer, en une heure et demie, de vous ramener la complexité à un niveau de compréhension de nous tous. Monsieur Jean-Marie Vigoureux, qui nous a fait une si belle conférence sur Marie Curie, là, moi, j'en avais presque les larmes aux yeux. Hein. J'étais très, très ému, parce que c'était fantastique pour ceux qui l'ont écouté. Donc, il va nous parler d'un machin qui est très difficile à comprendre. C'est ce qu'on appelle l'univers et la vie entre ordre et désordre. Et le mot technique, ça s'appelle l'entropie. Alors, mais comme il le fait d'habitude, il n'utilise pas le jargon scientifique. Donc il essaiera de vous expliquer qu'on passe du désordre à l'ordre avec des règles et des lois particulières. De la même façon, nos physiciens de la lumière et des perceptions lumineuses, c'est M. Bernard Valeur et Elisabeth Bardès qui font aussi des conférences en duo. De la lumière au vin, un chemin haut en couleur, c'est-à-dire en quoi la perception de la lumière à travers et renvoyée par le vin modifie notre perception du ressenti de la dégustation du vin. Et alors là, c'est de la bonne technique bien dure et pure, hein, donc... Simulation numérique de l'arme nucléaire. Donc, je vous ai parlé, l'an dernier, je vous ai parlé de la bombe atomique. Le problème de la bombe atomique, c'est que pendant de 1945, on va dire, aux années 60, on a fait des essais réels en essayant de comprendre comment ça marchait. Et évidemment, avec toutes les difficultés géopolitiques et environnementales que vous imaginez, que vous connaissez. Et aujourd'hui, vous savez qu'on ne fait plus d'essais, à part monsieur le Coréen, on ne fait plus d'essais réels, on fait des essais, on va dire, en maquette, entre guillemets. Et donc, dans ce processus de maquette, donc on a eu la chance, il y a quelques années, c'était en 2009, de visiter une installation qui s'appelle Laser Mégajoule, qui est à côté de Bordeaux. On avait fait un voyage UTB là-bas. Et voilà l'intérieur du laser mégajoule. C'est un machin, une boule, dans laquelle il y a 288 lasers qui tirent sur une petite bille qui fait 2 mm de diamètre, qui ressemble à une balle de ping-pong de 2 mm de diamètre. Et dedans, il y a du tritium. Et on fait la fusion par ces tirs, on fait la fusion, pas encore, mais on la fera, et on mesurera comment ça se passe. Et une fois les résultats de cette petite expérience en labo, entre guillemets, faite, on passe dans des gigantesques programmes de calcul avec les ordinateurs très puissants qu'on a maintenant, et on détermine, disons, le dimensionnement de l'arme réelle. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, ce n'est pas Jean-Marie Fontaine, c'est une autre personne qui est spécialiste de ce sujet-là, qui nous fera cette conférence l'année prochaine. Alors, les éléments chimiques. Je vous ai fait déjà plusieurs fois des conférences, et Jacques Fauss vous les a faites aussi, sur le tableau des éléments chimiques. Et là, il fallait en parler à nouveau cette année, tout simplement parce que c'est l'année internationale du tableau des éléments chimiques, puisque ça fait, si je compte bien, 150 ans que M. Mendeleïev a mis au point ce tableau. Et donc on fête tout ça, et vous savez qu'il y a des noms abracadabrants là, dans des noms de le scandium, le gadolinium, même des noms beaucoup plus simples, le chrome, pourquoi le chrome s'appelle chrome, pourquoi le soufre s'appelle soufre, pourquoi l'antimoine s'appelle l'antimoine. Alors là, c'est des tas d'histoires rigolotes, et M. Jacques Fauss vous dira quelle est l'origine étymologique de tous ces noms d'éléments. Et c'est rigolo, vous verrez. Et en plus, lui, il est rigolo. Donc ça ne gâche rien. Donc, science et technique, là, je vous ferai une conférence sur l'histoire de l'aéronautique, mais vue d'un point de vue de la technique, c'est-à-dire comment on a fini par arriver à voler en plus lourd que l'air, et comment tout ça, globalement, ça marche. Et on a mis un certain temps à comprendre comment ça marchait. Donc c'est essentiellement au XXe siècle. Donc je vous raconterai tout ça en mettant un petit peu à part, disons, la nomenclature de tous les appareils. Et c'est plutôt Jacques Folléas qui vous parlera de ça. Donc j'essaierai de vous faire comprendre l'évolution des idées. Et puis, puisqu'on parle d'aéronautique, on va tout de suite derrière vers l'aéronautique. Et il faut que je vous parle de ce fou célèbre qui s'appelle Elon Musk. Vous le connaissez tous? Non, pas vraiment. C'est le patron de SpaceX, vous savez, celui qui ramène les fusées sur Terre vivante, et qui est le patron de Tesla, la boîte qui fait des voitures électriques. Et donc, c'est un fou furieux. Il a 48 ans, hein, et il est milliardaire, mais quasiment tous les 3 ou 4 ans, il frise la faillite totale. Mais c'est un entrepreneur au sens anglo-saxon du terme, pur et dur. Et il faut comprendre, au-delà des péripéties du bonhomme et de ses sociétés, c'est d'essayer de mettre en évidence son processus mental anglo-saxon très typique, qu'on n'a pas dans notre culture européenne, et c'est pour ça qu'on a quand même des problèmes pour développer les entreprises. On va reparler des gaz de schiste. Alors, on avait eu une conférence sur le gaz de schiste il y a une dizaine d'années par une spécialiste de chez Total, donc on a eu un exposé de l'exploitant, mais là, on va voir, c'est M. Schulz, il est enseignant à Hilaire de Chardonnay, là, c'est un jeune, un normal supérieur, hein, donc c'est un bon, hein, il explique très bien, et donc c'est intéressant d'avoir un point de vue un petit peu plus neutre sur ces technologies. Donc il nous parlera de tout ça. Et on arrive à la fin des conférences. J'ai demandé à Jean-Louis Brûlé, certains le connaissent ici, Jean-Louis Brûlé, il est aussi membre de c'est celui qui a reconstruit le Pierre Lefort de Nicéphore Niépce, quand il était professeur de mécanique au lycée Niépce. Et donc je lui ai demandé et c'est lui qui s'occupe de la maison de Niépce à Saint-Loup. Et donc il va nous faire une histoire de la photo depuis Niépce jusqu'à maintenant. Et pourquoi il va faire ça? Parce que des mauvaises langues disent, alors là, faudra pas le crier trop fort, c'est quand vous sortez du musée Niépce à Châlons, vous en savez moins sur l'histoire de la photo quand vous y êtes rentré. Mais ça, c'est une méchanceté. Voilà. Donc, c'est pour parler un petit peu de tout ça. Et puis, l'autre sujet incontournable dont on vous rebat les oreilles dans les magazines, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on essaiera, avec nos intelligences humaines, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, ou l'idée qu'on s'en fait au moment où on parle. Alors là, j'ai trouvé un professeur qui travaille sur ces sujets-là et qui va nous donner des exemples précis sur des applications précises. En particulier, lui, il travaille beaucoup sur les profilages, disons, de criminels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire retrouver à travers des profils en disant ben, « celui-là, il a des probabilités d'être délinquant dans telle ou telle direction, etc. etc. » C'est pas encore Minority Report, mais presque, voilà. Donc, les sujets dans la fête de la science, diversité biologique et agriculture. Donc, M. Bourque, qui vient de l'INRA Dijon, nous fait une conférence tous les ans. Il est très pédagogue. Venez l'écouter. Et ensuite, on a une conférence par Benoît Benan, qui travaille sur la fabrication des biocarburants avec les algues. Il est chercheur au CNRS à Marseille. On arrive à la fin. Le cinéma... Donc, La Combe Lucien, donc ça c'est une thématique transversale sur le problème de la guerre, de la résistance, de la collaboration. Et donc, le film qui l'illustre, c'est La Combe Lucien, vous vous souvenez peut-être de ce film. Madame Assadas revient pour la deuxième fois, on l'a découverte l'année dernière. C'est une excellente conférence, très analytique et très claire. Et en musique... Notre thème musique, Clara Schumann et Augusta Holmès, deux compositrices du 19e, femmes, et donc très rares, Igor Stravinsky, bien sûr, et François Teinturier, qui devait faire cette conférence l'an dernier, mais lui, il accumule les accidents de santé. Quand il a fait très froid, il est sorti sur son perron, il a glissé sur... la marche d'escalier, il s'est cassé le tendon d'Achille. Donc, il va nous le faire. Donc, c'est l'origine de la notation musicale. Hein, et c'est-à-dire comment on est venu à la notation polyphonique. Et avec son bagou habituel, il va nous enchanter. Donc, Stéphane Varnet nous fait deux types de conférences. Une conférence d'analyse d'une œuvre, et une conférence, concert-conférence, que l'on fait à l'auditorium du conservatoire. Et enfin, le théâtre. Giorgio Strehler, Piccolo Teatro, ce n'est pas celui de Chalon, c'est celui de Milan, hein, metteur en scène, et Patrice Chéreau, qui maintenant, vous le savez, est disparu. Gaël Abou. Voilà, et une animation que l'on fera à la bibliothèque municipale, l'entre-deux-guerres en France, donc en sortant des ouvrages et des journaux de l'époque. Donc je fais une petite pause à ce moment-là, donc l'exposé des conférences est terminé, mais c'est là que je sors ma baguette magique, et pour la première fois, le catalogue de l'UTB est disponible le jour de la présentation des conférences. Alors, c'est la première fois qu'on y arrive. C'est pas facile, parce que faire un catalogue comme ça... D'autant plus que cette année, on avait un challenge supplémentaire. On a refondu un petit peu la composition de la plaquette. C'est-à-dire, on a fait une extension du mode d'emploi de l'UTB, si vous voulez, qui était quand même réduite à la portion congrue. Donc, il y a quelques pages sur le fonctionnement du site Internet. Je vais y revenir. Et quelques pages sur le mode de fonctionnement, comment on s'inscrit, comment ça fonctionne. Donc, il y a quelques personnes qui vont vous distribuer aimablement un exemplaire de chacun de ces catalogues, et donc on ne vous l'a pas donné jusqu'à présent pour que vous m'écoutiez et que vous ne lisiez pas le Polycope pendant que je parle dans le vide. Voilà. Alors, j'enchaîne, j'enchaîne donc sur la suite. Donc, à l'UTB, on fait beaucoup de conférences, il y en a 117. Hein. Donc, c'est pratiquement tous les jours, en période scolaire, d'octobre à avril, et quelquefois, il y en a deux par jour. Donc, on a d'autres activités, c'est ce qu'on appelle les activités complémentaires, c'est pas un titre très génial, mais c'est tout ce qui n'est pas conférence. Donc, pour faire court, il y a les ateliers de langue et d'informatique, et des groupes de travail, plus la marche et les voyages. Donc, une présentation détaillée de toutes ces activités sera faite donc à la fin septembre, de telle manière que, et c'est pas moi qui la ferai, je ferai juste l'animation de la, et chaque responsable de chaque atelier viendra expliquer qui fait quoi. Donc, je le passe très vite. Alors, un point important, une nouveauté par rapport aux années précédentes, je le dis surtout pour les personnes, aussi bien de l'UTB, des personnes qui ne sont pas encore à l'UTB. On a essayé l'année dernière un système de test pour les ateliers de langue. Si vous voulez, le problème des ateliers de langue, si vous n'avez jamais fait une certaine langue, vous hésitez à investir une somme qui n'est quand même pas négligeable pour prendre des cours sur toute l'année. Parce que si vous dites au bout de 3 séances, « Ah ben non, finalement, j'y arrive pas ou j'ai pas le temps », donc c'est de l'argent qui est perdu. Donc on a une formule découverte de 50 euros et on aura 4 séances dans chacune des langues, 4 séances d'une heure et demie pour que chaque personne qui veut se mettre le pied à l'étrier se rende compte si elle est partante ou pas. Avant on faisait qu'une heure, donc là on laisse le prix à 50 euros et donc c'est 4 séances d'une heure et demie et ces séances on va les lancer dès début octobre. De telle façon que les gens puissent s'initier à cette nouvelle langue. Donc en allemand, anglais, chinois, espagnol et italien. Alors, juste un petit point, groupe généalogie. L'an dernier, l'animateur n'avait pas pu l'assurer parce qu'il avait un autre projet en cours, donc il a accepté. Donc Jean-Paul Offrand, il est là dans la salle. Si, je le vois là-bas, a accepté de reprendre cet atelier. Donc c'est une familiarisation, une initiation aux techniques de recherche généalogique. Bien sûr, il fait partie de l'association locale chalonnaise qui s'occupe de ça. Atelier d'œnologie, l'an dernier on a eu un très gros succès, c'est-à-dire on travaille avec un caviste de Givry, Philippe Strohel, qui est sur la place, en face de Notre-Dame de Varanges, là, et on avait 18 personnes. Et les sujets, c'est des sujets un petit peu inhabituels pour la découverte des vins, si vous voulez. Alors, des nouveautés, on l'a un peu lancé l'an dernier, ce que l'on fait depuis plusieurs années, on écrit des livres. Et on écrit des livres, c'est souvent le résultat d'activités, de recherches, soit littéraires, soit historiques, sur des personnages locaux au sens bourguignon du terme. Le dernier ouvrage qui vient de sortir, c'est le Comte de Rambuteau. Le Comte de Rambuteau, qui est un homme qui est originaire de la région de Mâcon, et qui a été le préfet de Paris sous la monarchie de Juillet. C'est-à-dire, c'est le prédécesseur du baron Haussmann. Et c'est lui qui, en fait, a démarré la rénovation urbaine de Paris que Haussmann a continué. Et donc, il y a tout un groupe qui a travaillé sur sa biographie, et on a édité une monographie là-dessus. Elle est d'autant plus intéressante, c'est qu'il n'en a pas d'autre. On est les premiers à avoir fait une monographie sur ce personnage. Évidemment, à la grande satisfaction de ses descendants qui existent toujours. Une autre chose que l'on fait, on a une bibliothèque de prêts, puisqu'on a accumulé, grâce à des dons et des achats divers, 400 ou 500 ouvrages, essentiellement d'histoire et de littérature, mais il y a d'autres choses également qui sont intéressantes. Et maintenant, il y a deux dames qui s'occupent de gérer cette bibliothèque, et donc elle a vocation à servir aux adhérents de l'UTB. Et deux dernières thématiques, la marche. Donc on a un groupe de marche, il y a beaucoup de marcheurs là, qui sont là dans la salle. Donc les modalités pratiques sont inscrites dans la plaquette. Tout le monde a eu un catalogue là? Ça y est, tout le monde est servi? Oh, c'est extraordinaire. Et deuxième chose, nous faisons des voyages. Les voyages, on ne fait pas des voyages pour le plaisir d'en faire. On essaye de trouver des voyages spécifiques qui ont un rapport plus ou moins direct avec des conférences qui ont été données. Bien, je vous cite qu'un exemple, ça va être les pays baltes. Bien évidemment, on va proposer un voyage dans les pays baltes, puisqu'on aura eu les conférences avant. On avait fait la même chose avec la Pologne, etc. Voilà. Alors, j'ai presque tenu l'horaire. Donc, je fais de la publicité importante, puisqu'aujourd'hui, on a un outil de travail et de communication avec le public de l'UTB, bien sûr, mais également avec le public général qui ne nous connaît pas et peut nous découvrir en allant sur notre site. Alors ce site, voilà son aspect. Hein. Voilà. Donc c'est la page d'accueil. On a un petit diaporama qui défile ici. Et dans la page d'accueil, on a les prochaines conférences qui vont avec le titre. La date, par exemple, c'est aujourd'hui, vous voyez. Donc, la date, c'est aujourd'hui. L'horaire, le lieu. Le lieu, ben, évidemment, vous savez que c'est ici, donc on a un petit plan. Et ensuite, les documents et l'enregistrement sonore. C'est-à-dire que sur ces deux derniers onglets, on peut écouter et voir ce que je vous ai montré à condition... Alors, pour cette information-là, évidemment, ça va être accès libre à tout le monde, puisque c'est de la publicité pour l'UTB, mais pour les conférences spécifiques, c'est protégé par un mot de passe, et il faut payer une cotisation supplémentaire qui fait 20 euros, en plus de la cotisation de base, qui permet d'accéder à ces documents et à ces enregistrements sonores. Ça résout deux problèmes. Si vous loupez une conférence à laquelle vous teniez particulièrement, « Ah ben, monsieur Truc, je l'adore, mais je ne pouvais pas venir. » Donc, vous pouvez l'écouter en replay, comme on dit maintenant à la télévision. Et sinon, si vous voulez réviser, parce que la conférence était très dense, et vous vouliez réécouter ou relire les supports visuels que le conférencier a proposés, eh bien, vous pouvez les regarder à nouveau. Donc, ça, c'est un point important. Alors, ensuite... Vous avez les différentes rubriques ici, je passe vite. Donc, ensuite, vous allez dans conférences. Et donc, à partir de demain ou après-demain, vous verrez sur le site le programme que je vous ai exposé. Donc, le programme de l'année qui vient de se passer va disparaître et le nouveau programme sera visible jusqu'au mois d'avril. Et vous allez, alors évidemment, vous allez sur n'importe quoi. Hein, donc, vous allez là, par exemple, là, voilà. Vous allez rôle et fonctionnement du Sénat, une conférence qui a eu lieu le 13 novembre 2017 par Mme Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire. Donc, vous voulez savoir qui est Mme Marie Mercier, même si vous ne la connaissez pas, ben vous cliquez sur son nom, voilà, et vous voyez son portrait et un petit curriculum vitae résumé. Voilà. Et de la même façon, vous avez les documents et l'audio. Vous voyez là les documents, ben, vous avez un support qui est lisible ici, et puis l'audio, vous pouvez la faire jouer ici si vous voulez. Je ne sais pas si on va l'entendre là. Ah ben non, j'ai coupé le son là. Bon, là, je n'ai pas branché mon ordinateur dessus, mais enfin, vous me croyez. Donc, on a un petit lecteur qui permet d'écouter la conférence. Et éventuellement, de l'enregistrer. Il y a quelques personnes qui enregistrent tout le fichier de la conférence et qui les mettent sur une clé USB, qui les mettent dans leur voiture et qui les écoutent sur leur radio dans leur voiture. Ça, j'ai plusieurs exemples comme ça. Parce que rester devant son ordinateur pendant une heure et demie, c'est pas, faut être passionné par la conférence. Tandis que là, c'est un peu comme un poste de radio et vous le laissez jouer en l'écoutant, en faisant autre chose, si vous voulez. Sauf si c'est très complexe et très ardu. Voilà, voilà. Donc les conférenciers, si vous voulez savoir des choses sur les conférenciers, ben vous avez le trombinoscope des conférenciers, voilà. Bon, n'importe quoi. Voilà. Donc quand vous voulez savoir M. Banzé, par exemple, bon ben voilà, c'est ce qu'il a fait, voilà, etc., etc. Ensuite, vous avez les groupes et ateliers, donc vous avez toutes les thématiques des ateliers qui sont là, vous cliquez dessus, vous allez dans œnologie et vous voyez le programme, les dates, les lieux, les choses comme ça. Les voyages, ben, si vous voulez faire des voyages, ben, voilà les voyages qui ont été faits ou qui sont en cours de réalisation, et il y a deux voyages qui sont en attente de démarrage, c'est l'Iran en octobre 2018 et l'Allemagne, tiens, je l'ai pas mis là, voilà, c'est là, voilà, et donc vous avez le programme qui est ici, et là il y a un programme beaucoup plus détaillé avec des photos, toutes les conditions contractuelles détaillées. Voilà. Les ouvrages, vous avez tout le catalogue de nos ouvrages avec tous les détails. Et ensuite, si vous voulez nous contacter, ben, il y a la fiche d'identité de l'UTB où nous sommes et vous pouvez nous envoyer des mails, vous les numéros de téléphone, le mail, etc., etc. Donc, sachez que nous avons maintenant un outil Internet qui marche globalement très bien, dont les gens sont satisfaits. Il faut avoir le réflexe de l'utiliser, et en particulier pour ceux qui sont des accros du smartphone, le regarder sur votre téléphone. Ce n'est pas tellement pour le plaisir de regarder sur le téléphone, mais surtout pour être informé des changements de dernière minute. Le scénario catastrophe habituel de l'UTB, c'est le conférencier qui dit à 11h30 du matin, mon train est en grève, je ne peux pas venir. Je suis malade, ou enfin, il y a de la neige, ou il y a ceci, ou il y a cela. Donc, on essaye de faire des mailings directement aux gens, mais les gens ne regardent pas toujours leur mail à la minute près. Et quand c'est vraiment juste avant la conférence, c'est un peu une difficulté. Ce moyen-là, si vous voulez, c'est un moyen de prévenir qui apparaît dans ce bandeau rouge qui est tout de suite au début, tout à fait en haut de la page d'accueil. Et donc, s'il y a une conférence annulée, c'est mis, ça demande 5 secondes pour le mettre, on le met. Et donc, avant de venir, ayez le réflexe, si vous utilisez beaucoup votre téléphone portable, d'aller sur le site et de regarder si tout va bien. Donc, s'il n'y a rien, c'est que tout va bien. S'il y a une information, eh bien, ça vous évite de faire 20 km pour voir la petite affiche en disant la conférence est annulée. Donc c'est quand même désagréable. Voilà. Donc utilisez bien le site UTB, il y aura encore des nouveautés au fur et à mesure des années. Et voilà. Donc j'espère que le programme de l'année qui vient va vous plaire. Hein. On s'est beaucoup fatigué pour le trouver, et surtout convaincre les conférenciers, surtout de prestige, de venir nous visiter. Ça ne se fait pas simplement claquant dans les doigts, vous l'imaginez. Hein. Et donc on les remercie par avance. Et donc vous voyez qu'on a un programme vraiment de qualité. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, engagez-vous, vous êtes les bienvenus. Donc, le début des inscriptions, c'est pour les nouveaux adhérents, c'est tout début septembre. Hein. Donc, vous le faites soit par courrier, si vous habitez un petit peu loin, vous remplissez les feuilles jaunes qui sont à l'intérieur, et vous mettez votre chèque et en remplissant toutes les cases, et vous envoyez votre chèque et la feuille par le courrier, ou si vous voulez venir nous voir, il y a des personnes qui font l'accueil à l'UTB, donc c'est 30 rue Saint-Georges, c'est derrière la sous-préfecture, c'est au premier étage, donc du mardi au vendredi, de 10 à 12, vous venez et il y a des personnes qui feront les formalités pour vous inscrire ou vous réinscrire. Voilà, je vous remercie. Alors, dernière chose, je ne l'ai pas fait, vous avez le droit de poser des questions. Hein ? Oui.